Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Ce mois de décembre a connu des alertes à la pollution aux particules fines à répétition à Paris, à Lyon ou encore à Lille. Et pour certains, ce n'est pas terminé. Dans les Alpes et notamment dans la région de Chamonix, le pic de pollution persiste depuis presque 20 jours maintenant. Alors quelles sont les causes de cette pollution atmosphérique? Quels sont les effets pour notre santé à court et à plus long terme? Les solutions mises en œuvre sont-elles à la hauteur du problème? On en parle cet après-midi dans le dossier de La Tête au Carré en compagnie d'une chimiste de l'atmosphère, Isabelle Coll, et d'un pneumologue, Bruno Housset. Pour leur adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons Pierre Barthélémy, comme tous les mardis, pour sa chronique de science improbable en partenariat avec Le Monde. Aujourd'hui, il sera question d'argent sale. Oui, oui. Et puis, comme chaque jour, à la une de la science, c'est Axel Villard. Bonjour Axel.
Bonjour Daniel.
Alors aujourd'hui, à la une de la science, on s'intéresse au sens du rythme, cette capacité à produire et suivre des musiques régulières que nous partageons, paraît-il, avec des animaux.
Oui Daniel, nous allons voir comment, du hasard, naît le rythme avec une expérience originale menée en Écosse et qui propose que le groove soit universel. On en discute avec le neurophysiologiste Pierre Lemarquis dans un instant.
Vos questions, vos réactions sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Marion Lelay et préparé par Chantal Lemontagnier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Bonjour Isabelle Coll et Bruno Housset.
Bonjour.
Soyez les bienvenus Isabelle Coll, vous êtes chimiste de l'atmosphère. Alors les pics de pollution à répétition que nous avons connus dans différentes villes de France, je le disais, est-ce que c'est exceptionnel? Ça remonte à combien de temps pour trouver ce genre de phénomène pendant le mois de décembre assez important cette année, hein?
Alors, ce ne sont pas des pics exceptionnels en termes de propriétés. On retrouve ce type de pics hivernaux en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 14 et 15.
Ah oui, c'est donc la routine.
Voilà. Après, ce qui fait le caractère exceptionnel de cet épisode, c'est son intensité, son amplitude spatiale et sa durée.
D'accord. Bruno Housset, vous êtes pneumologue. Est-ce qu'on sous-estime aujourd'hui l'enjeu de santé publique que représente cette pollution avec, on l'a dit, quand même des phénomènes d'une ampleur assez importante dans le temps cette année?
Il y a probablement une méconnaissance de ce problème. Je pense qu'il est extrêmement important de faire connaître les enjeux qui sont associés à la pollution et qui sont importants.
On estime à combien le nombre de décès liés de façon plus ou moins directe à la pollution en France aujourd'hui?
La réponse officielle, c'est ce qui a été publié par Santé publique France en juin dernier, qui annonçait 48 000 morts en France par an.
Ça paraît énorme.
C'est absolument énorme. Et je pense que derrière, il faut aussi essayer d'analyser. Je pense qu'il y a aussi une incertitude sur ce chiffre. On n'a pas de fourchette à donner. Et donc, c'est compliqué parce que vous savez, ce sont des morts qui ne sont pas étiquetées pollution. C'est un travail d'épidémiologiste que de savoir les variations de risques et de décès. Et donc, c'est à partir de ces modélisations qu'on peut arriver à ce chiffre.
On va y revenir, évidemment, dans cette émission. Nous nous intéressons à la pollution, ses causes, ses conséquences sur notre santé, dans La Tête au Carré. Et les auditeurs peuvent vous adresser, bien sûr, leurs questions sur la page de l'émission, sur franceinter.fr. D'où vient le sens du rythme? Enquête sur les origines de la musique à la une de la science, aujourd'hui.
Et 2, et 14, et 38, et 40, et 3000, et viens très.
Valérie Lemercier qui nous emmène en cadence dans cette une de la science consacrée donc au sens du rythme. Quand on écoute finement la musique partout dans le monde et malgré son immense diversité, on découvre certains invariants rythmiques parfaitement universels. Les chercheurs en dénombrent aujourd'hui 18. Alors pour tester cette théorie toute jeune qui date de 2014, une équipe de chercheurs japonais, canadiens et anglais a mis en place un drôle de protocole, une sorte de téléphone arabe rythmique dont les résultats, publiés aujourd'hui dans la revue PNAS, confortent l'idée d'une structure universelle dans les rythmes produits par les humains. Pour en parler et pour comprendre d'où vient ce sens du rythme, nous sommes au téléphone avec Pierre Lemarquis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurophysiologiste, professeur associé à l'université de Toulon. Alors racontez-nous cette expérience menée donc à Édimbourg par Andreas Ravignani et ses équipes. Alors ça a été mené l'année dernière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de téléphone arabe rythmique exactement?
Ah, c'est absolument extraordinaire. C'est un peu, vous souvenez, cette expérience où on essayait de reconstituer les conditions initiales sur Terre et puis on voyait apparaître des protéines de la vie. Eh bien là, c'est un peu la même chose avec le rythme. On fait entendre à des personnes des sons complètement irréguliers et on leur demande de transmettre à une deuxième génération, en quelque sorte, les sons qu'ils viennent d'entendre. Puis une troisième, etc. Il y a 8 générations successives. Alors on pourrait s'entendre à trouver du chaos. Eh bien, pas du tout. Finalement, la transmission fait apparaître un rythme de plus en plus régulier, de plus en plus simple, de plus en plus facile à apprendre. Et puis quand ce rythme est bien façonné, les dernières générations font apparaître des rythmes plus sophistiqués, qui seront différents suivant les différentes familles qui ont été testées. Et on arrive exactement à ce qu'on des invariants qu'on retrouve dans le monde entier, ouais. Plus une culture qui apparaît différente pour chaque filiation.
Ouais. Axel Villard.
Pourquoi cette démonstration était importante aujourd'hui ? Est-ce que cette théorie des invariants avait encore besoin de preuves ?
Oui, parce que ça n'avait jamais été vraiment prouvé. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est tout récent. C'est-à-dire, on connaissait très peu d'invariants dans la musique. C'était l'octave, la quinte, et puis cette idée de répétition indifférence, de tension, résolution, qu'on retrouve dans toutes les cultures. On n'était pas allé plus loin. Tandis que maintenant, on a pour le rythme, ces 6 éléments qu'on va retrouver dans toutes les cultures, qui seront le côté métronome, vous voyez, des bruits bien réguliers, tac, 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 et puis après, ça va être hiérarchisé, par exemple, sur un temps plus marqué que l'autre, tac, 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 tac. On va retrouver, comme ça, dans toutes les cultures, des rythmes à 2 temps, également à 3 temps, et puis des modifications du rite, pas très nombreuses, par morceaux qui vont être réutilisés, et puis tout ça va donner des motifs rythmiques qui vont parfois être culturels.
On peut préciser d'ailleurs que toutes les personnes qui participent à l'étude étaient complètement novices, ça veut dire que tout le monde a le sens du rythme en fait.
Voilà, en tout cas, il apparaît assez vite. Alors, pourquoi ? Parce que, vous savez, si les morceaux duraient, il y avait 32 petits morceaux différents, et on peut pas retenir plus de 6-7 éléments à la fois, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, quoi. Donc, pour essayer de les transmettre à quelqu'un d'autre, on fait ce qu'on peut, on essaye de retrouver des similitudes, de l'arranger, de le simplifier, pour pouvoir le transmettre à la personne suivante, et c'est comme ça que le message assez universel et simple, ouais, va pouvoir naître.
Mais Pierre Lemarquis, dans quelle mesure c'est vraiment universel ce sens du rythme ? Moi, personnellement, par exemple, j'ai toujours pensé ne pas l'avoir. Je me suis toujours trouvé un peu gauche, soit quand il s'agit de battre la mesure, soit de danser. Est-ce que vraiment c'est homogènement réparti dans la population, le sens du rythme ?
À partir du moment où vous savez parler, vous avez le sens du rythme. Vous voyez, on ne pourrait pas parler si on n'avait pas le sens du rythme. Le langage va naître du rythme. On l'a montré avec des bébés à 9 mois, on leur apprend un rythme de valse et ils vont acquérir le langage plus rapidement. On a montré que dans la dyslexie, c'est surtout une mauvaise interprétation du rythme des mots, ouais, qui va être responsable de la dyslexie. On va rééduquer les dyslexiques en leur faisant apprendre le rythme. Ils vont être moins dyslexiques après. Donc le rythme est à la base du langage, de la danse également, qui évolue suivant le même système. Dans toutes les cultures, on chante, on parle et on danse.
Axel. Pierre Lemarquis, est-ce qu'on a une idée du pourquoi de ces 18 invariants en particulier ? Est-ce qu'ils ont une origine identifiable ?
Il y a certainement donc cette histoire de mémoire à court terme, puisqu'on peut pas retenir tellement de choses, donc on essaye de simplifier pour faire entrer ça dans 6-7 éléments. On a notre cerveau gauche, notre hémisphère gauche, vous savez, qui est spécialisé dans le langage, justement, dans la logique, qui cherche à interpréter. Donc si on vous envoie des sons irréguliers, vous allez chercher à trouver un algorithme, quelque chose qui vous les rende plus réguliers ou compréhensibles. Il y en a horreur, on interprète, on regarde les étoiles, on va voir des constellations, on entend des sons irréguliers, petit à petit, on va percevoir une continuité, un rythme qu'on va interpréter, on est fait comme ça.
C'est un héritage génétique ou c'est un apprentissage, c'est quelque chose d'acquis ?
La grande question.
Comme toujours, 100% inné, 100% acquis. C'est-à-dire que, bon, déjà dans le ventre de notre mère, on entend des rythmes, hein, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, les rythmes, les tempos, utilisés en musique, correspondent à ceux du battement du cœur, hein, c'est les mêmes fréquences.
Donc on n'a pas la réponse.
Oui, on n'a pas vraiment la réponse, mais on peut imaginer qu'il y ait finalement, parce que déjà dans le ventre de notre mère, nous avons entendu son cœur battre, et peut-être, oui, le nôtre aussi, on peut imaginer que déjà c'est une on s'est sensibilisé au sens du rythme avec le cœur de notre mère.
Ah, c'est évident. Bon, on l'entend pas énormément, mais on l'entend quand même. On l'entend toute la journée. On entend le nôtre. Vous savez, quand les archéologues ont découvert la grotte Chauvet, c'est la première chose qu'ils ont dit. Ils étaient dans le silence et ils entendaient battre leur cœur. Ils avaient l'impression, c'était la première chose. C'est même presque angoissant. Quand vous êtes dans une chambre sans dépourvue d'écho, vous entendez battre votre cœur, tous vos sens. C'est très impressionnant. Quoi. C'est quelque chose qui va marquer certainement le fœtus.
Est-ce que certains animaux ont le même sens du rythme que nous ?
Alors, on a plus de mal à le prouver. Pendant longtemps, on pensait qu'on était, bien sûr, anthropocentrisme obligé, les seuls à avoir le sens du rythme, puisqu'on était les seuls à parler. Mais on s'aperçoit qu'il y a des singes qui vont parfois avoir des activités de percussion, un peu en rythme. Enfin, bon, ça va pas durer très longtemps, mais ça va avoir un rôle. Ça peut être de la séduction, ça peut être pour éloigner des adversaires. Puis on a des perroquets qui arrivent à bouger la tête en rythme, quelques oiseaux, des lions de mer.
Des sirènes de pompiers, ça peut arriver aussi. Parfois. Axel, une dernière question.
Oui, l'auteur de l'étude envisage de recommencer l'expérience, mais cette fois avec des participants du monde entier et même des singes, comme vous le disiez. Ça vous semble nécessaire de le refaire encore avec des gens qui viennent d'un plus partout dans le monde ?
Ben, c'est rare, les études sur la musique qui ont pu être faites de manière comme ça, pluriculturelle. Donc là, apparemment, s'il peut le réaliser pour une fois, ce sera une première, et ça ouvrira la porte à d'autres études de la musique, parce qu'il y a aussi les émotions musicales, il y a plein d'autres éléments de la musique qui sont intéressants à tester dans différentes cultures.
Merci. Merci à vous, Pierre Lemarquis, pour ces précisions sur notre sens du rythme. Et merci, Axel, à demain.
À demain, Daniel.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Cérès, le plus gros astéroïde de notre système solaire, était un jour un monde océanique. Ce petit astre de 900 km de large qui se trouve dans la grande ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter est aujourd'hui sec et aride. Mais en étudiant la réflexion de la lumière à sa surface, la sonde Dawn de la NASA vient de découvrir qu'il était complètement gorgé d'eau. Une découverte intrigante qui laisse penser aux chercheurs que dans le passé, quand Cérès était encore actif et donc chaud à l'intérieur, cette eau ait pu se trouver en surface tout autour de l'astéroïde, un petit monde océanique, certainement recouvert d'une calotte de glace comme sur Europe ou Encelade, deux des lunes de Saturne. Le mystérieux son métallique enregistré dans la fosse des Mariannes était en fait une baleine. En 2014 et 2015, un robot autonome piloté par des scientifiques de l'Oregon avait enregistré un drôle de son métallique dont les sonorités variaient de 80 à 8000 Hz. Le voici. Un son étrange qui se déplaçait et se répétait dans les profondeurs de l'océan très régulièrement. Il aura fallu 2 ans et à l'aide de spécialistes des cétacés pour identifier la petite baleine minke, une espèce de baleine solitaire dont le chant est encore mal connu et surtout mal compris, car les baleines chantent généralement durant leur période d'accouplement. Alors si c'est un chant d'accouplement, conclut l'auteur, pourquoi l'entendons-nous toute l'année ? C'est la suite du mystère. Pour terminer, une bactérie cavernicole découverte au Nouveau-Mexique qui pose de nouvelles questions sur l'émergence des résistances aux antibiotiques. En effet, cette espèce du genre Penibacillus est parfaitement résistante à 18 des antibiotiques communs et utilisés par les hommes. Même ceux super efficaces dits de dernier recours. Pourtant, cette bactérie n'a pas croisé le monde moderne depuis environ 4 millions d'années, enfouie dans les profondeurs d'une grotte scellée à 1000 mètres de profondeur. Selon les chercheurs, étant donné la pression de sélection qui s'est exercée sur l'espèce au fil des milliers d'années et le fait qu'elle ait survécu, on peut la considérer comme une archive de l'antibiorésistance. La bactérie servira peut-être à prédire certaines résistances actuelles. Son étude est toujours en cours au Canada. Dans un instant, on s'intéresse à la pollution, ses causes et son impact sur notre santé à court terme et à plus long terme. Nos invités attendent vos questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr.
Défaite surprise dans l'intrigue de la nuit, ouais c'est toi que je vis, spoiler. Espèce, on voit l'apparition aux petites heures. Pour les repris, de justesse, épuisé d'excès pour les noceurs. Nuisance sonore, depuis quand on part sur un dance floor, spoiler.
Spoiler.
assez blasé, qu'est-ce qui est pire? Renoncer ou bien consentir? Je sais que tout s'estompe quand les masques tombent. Knack knack, en bout de piste, cette nuit s'achève sur un twist. Spoiler!
Gâcher mon plaisir. Tika motongi si na zane kobina o. Na tiki basusi na ndako. Zela tongo eta na pongo to solola.
Danse comme on joue les coups, les briquets font parler la poudre. Danse club, tel un thermos, on fait partie des meubles à force. J'ai vu m'arracher du réel, compter 36 chandelles, tranquillisant dans le gobelet. Trouver des illusions au rabais. Spoiler!
Tika va souci, tika mon boulou, tika va tomber ici, tika mon boulou.
Spoiler!
Tika va souci, tika mon boulou, tika va souci.
Bouyabe, 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 bouyabe. Bouyabe, 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 bouyabe,
bouyabe.
C'était Spoiler, Balogi sur France Inter dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré, Daniel Fievé.
Et on s'intéresse à la pollution et à ses conséquences sur notre santé dans La Tête au Carré en compagnie d'Isabelle Coll, chimiste de l'atmosphère, professeure au LISA, le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques, et Bruno Housset, pneumologue, chef du service de pneumologie au centre hospitalier intercommunal de Créteil et président de la Fondation du Souffle. Alors, les problèmes de pollution ne datent pas d'hier, on en parlait déjà il y a plus d'une cinquantaine d'années dans les actualités françaises.
L'air de Paris n'est pas exactement ce qu'en disent les chansons. Et les pancartes les plus optimistes ne peuvent rien contre les fumées de la capitale, sur laquelle chaque année, nous disent les experts, retombent 13 000 tonnes de poussière. Rançon du progrès, l'atmosphère des grandes villes est chaque année un peu plus polluée. Paris est en train de s'intoxiquer. Paris, c'est-à-dire la foule parisienne. Et les cheminées d'usines ne sont pas seules en cause. Il y a aussi les voitures dont les pots d'échappement éjectent en particulier, avec l'oxyde de carbone, ce benzo 3-4 pyrène au nom barbare et qui est très cancérogène.
Nous étions le 20 janvier 1960. Alors Isabelle Coll, les particules qui posaient déjà des problèmes dans les années 60, sont-elles les mêmes qui nous incommodent aujourd'hui ?
Non, la pollution a beaucoup changé depuis plusieurs décennies. On a notamment eu dans le milieu du XXe siècle une pollution au dioxyde de soufre industriel et puis pollution monoxyde de carbone qui était assez importante, des fumées noires qui étaient beaucoup plus concentrées que ce qu'on peut avoir maintenant et qui n'étaient pas de la même nature. Et puis il y a eu dans les années 70, 80, 90 avec l'amélioration des conditions de combustion industrielle et automobile, une pollution plus oxydante. On a parlé beaucoup d'ozone en été. Avec l'amélioration à nouveau des systèmes de combustion, on a perdu un petit peu les pointes d'ozone et on s'est mis à reparler des pointes hivernales avec l'émergence du questionnement autour des particules fines que l'on sait maintenant mesurer, les PM10 et les PM2.5 ainsi que les oxydes d'azote.
Alors les PM10, PM2.5, ça fait référence à la taille, hein, c'est ça? Quand on dit PM10, c'est qu'ils font 10...
10 microgrammes, moins de 10 microgrammes. de 10 micromètres, pardon, ouais. Et PM2.5 moins de 2,5 D'accord. micromètres. Et donc, ce sont des dimensions qui correspondent à des pénétrations dans le système respiratoire.
Eh oui, c'est-à-dire, Bruno Housset, que plus elles sont petites, plus il faut s'en méfier en matière de particules, on peut le dire comme ça ?
On peut le dire comme ça, ce sont ces particules qui vont aller le plus profondément dans le poumon et qui peuvent éventuellement même passer dans le sang quand elles sont très petites. Elles vont induire aussi une inflammation qui va favoriser aussi le passage dans le sang. Et passant dans le sang, elles peuvent avoir des effets cardiovasculaires en particulier. Ouais.
Alors on entendait dans l'archive de 1960 cet effet cancérigène que l'on prêtait à certaines particules issues notamment des voitures. Est-ce que... une soixantaine d'années après, on a avancé sur ces questions. Est-ce que ces particules provoquent des cancers ?
Ça a été reconnu comme tel par le CIRCA, par le Centre international de recherche sur le cancer. Ça a été effectivement reconnu comme cancérigène pour les particules diesel et puis plus récemment pour la pollution aussi. Donc oui, ça peut être carcinogène, mais... Encore une fois, il y a un problème de proportion. Je redirai ça peut-être plusieurs fois dans cette émission. C'est que, par exemple, le tabac, ça n'a rien à voir avec la pollution en termes de cancérigène. Mmh. Donc, c'est pas du tout la même chose. Mais ça ne veut pas dire que la pollution n'est pas cancérigène.
D'accord.
C'est qu'on n'est pas dans le même ordre de grandeur.
D'accord. Ça l'est en moindre proportion. Est-ce que ça peut se conjuguer ? C'est-à-dire, est-ce qu'on fume en plus dans une ville très polluée, on augmente, on multiplie puisqu'on additionne les risques ?
Effectivement, on augmente les risques et c'est particulièrement vrai dans la pollution intérieure. Chez soi, vous savez qu'on passe 80% de son temps chez soi dans un local.
Oui.
Et dans un local. Et donc, à ce moment-là, on est exposé à un certain nombre de polluants. Et en plus, s'il y a un tabagique dans les locaux, qui fume, ça peut augmenter le risque. Oui.
Alors, quelles sont les principales sources de pollution, Isabelle Coll, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a un ensemble de sources de pollution qui est complexe. On a toujours des pollutions industrielles qui sont liées pas uniquement à la combustion d'ailleurs, mais à l'émission de qui génère des émissions de particules, que ce soit la verrerie, les cimenteries, etc. Mmh. On a des combustions domestiques, notamment les combustions de biomasse qui génèrent énormément de particules. On a des combustions automobiles, mais également des remises en suspension de particules par l'automobile, que ce soit par abrasion, sur les revêtements des routes, ou le métro, par exemple, met en suspension des particules métalliques par frottement entre les différents éléments de roulement.
Ces particules, je reviens sur le métro, parce qu'effectivement, on nous incite à prendre les transports en commun quand il y a des pics de pollution, et puis après, on nous dit, mais le métro génère aussi des particules. Est-ce que c'est en moindre proportion ? Est-ce que ces particules sont quand même moins nocives que celles que dégagent les autos ?
Alors, sur la toxicité, je laisserai Bruno Housset répondre, mais non, elles sont différentes. Elles ne sont pas respirées dans les mêmes proportions. Et donc voilà, ce n'est pas la même pollution, mais l'exposition qu'on a dans les transports en commun n'est pas identique à celle qu'on a auprès des axes de circulation. D'accord. Où l'on est exposé à une multitude de polluants.
Bruno Housset, vous nous confirmez que quand on prend le métro, on ne respire pas trop de ces particules qui sont générées par les freinages ou par les frottements du
métro.
On
inspire, mais de façon intermittente. Et ça m'amène à discuter de le fait qu'on a une exposition extrêmement variable à la pollution. En venant ici, on a été exposé à des polluants divers. Et donc, c'est cette difficulté en fait méthodologique, c'est de savoir effectivement à quel polluant on a été exposé et les conséquences que ça va avoir sur la santé. Mmh. Notamment respiratoire.
Oui, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission sur le détail des conséquences sur la santé. C'est cette pollution qui, on en entend beaucoup parler au moment des pics d'alerte, mais qui, on l'imagine, est quand même présente de façon sous-jacente en permanence dans l'air. En gros, entre deux pics de pollution, qu'est-ce qu'on respire et quelle est la qualité de l'air dans les grandes villes, et pas que dans les grandes villes d'ailleurs ?
Alors, les pics de pollution, c'est la partie émergée de l'iceberg, puisqu'il est reconnu que l'exposition chronique et sur le long terme est beaucoup plus dangereuse pour l'homme que l'exposition de pointe. Néanmoins, les pics de pollution ont plusieurs, finalement, vertus pédagogiques. D'abord, elles permettent de prendre conscience du fait que l'on est exposé de façon récurrente à des niveaux de concentration de polluants qui ne sont pas bons pour la santé. Mais également, ils peuvent servir de prétexte pour encourager et accélérer la mise en œuvre d'outils de planification pour réduire nos émissions polluantes. Ouais. Et donc ça, finalement, ça permet de rappeler à l'ordre les citoyens.
Ouais. Et qui détermine ces seuils d'alerte, ces pics d'alerte ? À partir de quand on dit, là, ça ne peut plus durer, il faut agir ?
Les seuils réglementaires, ils découlent d'abord de recommandations sanitaires, mais ils sont aussi un compromis entre des considérations économiques, des critères de faisabilité, ouais. Et puis la capacité que l'on va avoir à pouvoir les respecter dans certains milieux.
Oui, Bruno Housset, ça veut dire que ce ne sont pas que des considérations médicales qui fixent les pics, les seuils d'alerte ?
Les seuils d'alerte, et les seuils pas dépassés, c'est l'objet de négociations, en fait. Hein.
Ouais.
Effectivement, il y a le poids sanitaire, mais aussi le poids économique qui est pris en compte. Mmh. Et c'est ça la difficulté.
Alors,
je pense que pour nous, c'est vraiment de lutter pour insister sur les conséquences sanitaires qui sont importantes. Ouais. Est-ce que je peux faire juste un aparté sur l'aspect pollution en dehors des pics ? Il y a eu un travail qui était très intéressant, qui avait été fait à Londres et qui a été publié en 2007, où en fait, ils ont pris 30 sujets asthmatiques. Les sujets qui souffrent d'une maladie respiratoire chronique sont plus sensibles à la pollution. Et ils ont fait marcher pendant 2 heures, soit dans Hyde Park, soit dans Oxford Street. Hyde Park, c'est la nature, c'est pollué un petit peu, mais pas beaucoup, alors qu'Oxford Street, c'est là où passent tous les bus, les taxis avec les moteurs diesel. Ils ont regardé la fonction respiratoire. Au bout de 2 heures de marche, en dehors de pics de pollution, ceux qui avaient déambulé dans Oxford Street avaient une diminution de leur fonction respiratoire, mmh. avec des signes d'inflammation, en fait, des bronches. Donc ça veut dire que même une pollution de fond, quand il n'y a pas de pic annoncé, ça dépend aussi de l'endroit dans lequel vous vous promenez, eh bien ça peut être à l'origine d'une inflammation respiratoire.
Mmh. Une question qui arrive sur Internet, il y en a beaucoup d'ailleurs de questions, on aura l'occasion de les reprendre dans cette émission. Édouard, pourquoi n'évoque-t-on pratiquement jamais la pollution provoquée par la circulation aérienne qui ne cesse d'augmenter ? Est-ce que elle parvient jusqu'à nous, cette pollution qui est relarguée en très haute altitude, hein ?
Alors, elle n'est pas relarguée qu'en très haute altitude.
Oui,
les aéroports, finalement, sont un centre d'attraction d'activité. Et donc, il y a localement des émissions qui sont liées au roulage des appareils, mais aussi aux véhicules de fonction. Et puis après, effectivement, les émissions, quand elles sont effectuées en hauteur dans l'atmosphère, elles nous parviennent de manière plus diluée. Et les études ont montré que ce n'est pas une pollution majeure en termes d'exposition pour les citoyens des villes qui habitent à côté des aéroports.
Allez, dans un instant, nous allons nous intéresser aux impacts très concrets de la pollution sur notre santé. Pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
Alors elle s'efface quand les vérités sont banales. Elle s'étale dans le journal. Il vaut mieux tourner la page, partir en voyage. J'irai voir en tôt ou tard si les sirènes existent sur le dos des baleines. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes insistent sous les flots qui m'entraînent. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux. Chant d'amour. Morbis, immobile. Morbis, immobile. Morbis, immobile. J'irai de l'avant contre le vent.
C'était l'affaire Louis Trio, Mobilis in Mobile, sur France Inter, dans la tête au carré.
Bonjour, nous sommes le 6 décembre, il est 8h du matin, et voici le journal. Londres a été paralysée par une épaisse nappe de brouillard qui est apparue cette nuit. Les embouteillages se forment sur les routes principales et il semblerait que certains automobilistes abandonnent leurs véhicules pour continuer à pied. L'aéroport de Londres va être fermé.
Seigneur Dieu.
Le département météorologique a publié une déclaration faisant état d'un anticyclone persistant sur Londres. La fumée qui sort des cheminées de la capitale est prise au piège et se concentre au niveau de la rue, ce qui épaissit encore plus le brouillard. L'absence de vent laisse craindre que la situation s'éternise. Soyez prudent en sortant de chez vous, c'est une véritable purée de pois.
Un extrait de la série The Crown qui reprend donc un épisode de pollution qui a réellement eu lieu en 1952 à Londres. Un smog, donc une purée de pois particulièrement dense du 5 au 9 décembre de cette année. Pollution atmosphérique particulièrement importante. On parle vraiment d'un record pour le Royaume-Uni. Alors qu'est-ce qui s'est passé du point de vue atmosphérique et de la pollution cette année-là, Isabelle Coll? Je rappelle que vous êtes chimiste de l'atmosphère.
Alors, du point de vue atmosphérique, il s'est passé un petit peu la même chose que ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire qu'on a des systèmes de stagnation des masses d'air, des systèmes anticycloniques hivernaux où le sol est froid. Et lorsque le sol est froid, eh bien, les polluants ne peuvent pas être entraînés vers le haut dans des systèmes de dilution verticale. Et donc, on a une stagnation, une accumulation des polluants au niveau du sol. Ce qui s'est passé dans les années 50, en fait, ça a été un déclencheur pour une prise de conscience du fait que la pollution pouvait tuer. À l'époque, on pensait que c'était simplement des épidémies de grippe qui accompagnaient ces épisodes hivernaux. Et il a fallu tout le développement des sciences, alors aussi bien des sciences de la mesure des pollutions que des statistiques, des calculateurs statistiques pour permettre de corréler les mesures, le développement de la médecine pour montrer les effets mécanistiques sur, par exemple, les maladies cardiovasculaires, pour qu'on puisse prendre conscience de cette...
Vous êtes en train de nous dire que les effets sont suffisamment diffus pour qu'on ait mis beaucoup de temps à trouver le coupable. Pollution.
Alors au début, il y avait en fait une concomitance avec des phénomènes de grippe. À l'heure actuelle, on a évidemment des niveaux qui sont 10 fois plus bas que ceux qu'on pouvait avoir dans les années 50. Mais à l'heure actuelle, avec la puissance des statistiques et nos connaissances scientifiques, on arrive tout de même à détecter des signaux d'événements sanitaires pendant les épisodes de pollution.
Bruno Housset, pneumologue, cet épisode, celui de 1952 en Grande-Bretagne, il serait à l'origine de milliers de morts. On parle de jusqu'à 12 milliers de morts estimés liés directement à cette pollution et ça aurait rendu malade 100 000 personnes. Ça paraît gigantesque ces chiffres.
Entre 4 et 8 morts. Mais la pollution était gigantesque à cette époque. Les taux de polluants des PM10 qui avaient été relevés à ce moment-là, ça atteignait quasiment les 3 mg par mètre cube. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Isabelle, vous pourriez commenter un peu sur la nature même de la pollution, parce qu'elle est différente de celle qu'on a actuellement.
D'ailleurs, sur la nature de la pollution, je complète cette question avec celle de Julie qui nous est arrivée sur Internet. Les particules fines des feux de bois ont-elles le même impact que les particules fines des moteurs diesel sur la santé? On vous demande un peu de faire le tri sur toutes ces particules qu'on respire. Quelles sont les plus dangereuses?
Alors, déjà, peut-être qu'il faut préciser ce que c'est qu'une particule. Oui. En fait, dans l'atmosphère, on a des gaz, l'oxygène que nous respirons, l'azote, etc., la vapeur d'eau. Et puis, il y a des polluants gazeux comme le dioxyde d'azote ou le monoxyde de carbone. Et il n'y a pas que ça dans l'atmosphère. Il y a aussi des particules. Ces particules peuvent être constituées d'un cœur solide. Ça peut être une particule terrigène issue de l'érosion de la croûte terrestre par le vent. Et puis, sur ces particules, il peut y avoir pas mal de choses. Il peut y avoir des composés organiques qui se sont condensés. Il peut y avoir de la suie qui a été émise dans l'atmosphère et qui s'est coagulée avec d'autres particules. On peut avoir de l'ammoniac issu des épandages agricoles qui s'est transformé en présence des oxydes d'azote issus des combustions, notamment automobiles, pour faire ce qu'on appelle du nitrate d'ammonium et alourdir encore les particules. On peut avoir également du sulfate issu du SO2, des combustions industrielles, etc. Donc, une particule, c'est un ensemble extrêmement complexe sur lequel vont se condenser énormément de choses.
Alors, pour répondre à la question de Julie, elles ne sont pas toutes aussi dangereuses les unes que les autres, ces particules. Alors, notamment, quand on parle des particules fines issues du feu de bois ou celles issues du diesel, est-ce que le danger est le même?
Alors, je laisserai Bruno répondre, mais en termes de composition, non, on a plutôt du carbone suie dans les particules diesel. C'est assez illustratif comme nom. Alors que dans les feux de bois, on va avoir plutôt des espèces d'hydrocarbures oxydés qui sont tellement lourds qu'une fois dans l'atmosphère, ils se condensent. Et donc, ça n'est pas la même molécule.
Donc, Bruno Housset, il faut se méfier davantage de certaines particules comme celle du diesel. Que dit le pneumologue?
Il faut se méfier de toutes les particules, parce que dans la fumée de bois, vous avez un mélange de différents. Vous avez des particules, mais vous avez aussi d'autres éléments. Vous avez des gaz, vous avez des éléments chimiques, hein, et qui peuvent éventuellement avoir un effet toxique sur le plan respiratoire. Les diesels peuvent aussi coaguler ou agréger des pollens. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement plus d'allergies à proximité des axes à forte circulation, et probablement parce que les particules diesel peuvent véhiculer en fait du pollen et le faire rentrer dans l'arbre respiratoire. Oui,
voilà qui répond peut-être en partie à la question d'Anne qui nous arrive sur Internet. J'ai comme une rhinite allergique, née à la fois bouchée et qui coule, éternuement, gorge irritée et tout. Est-ce les effets du pic de pollution actuel? Je précise que j'habite à 15 km au nord de Paris. C'est-à-dire, comment on fait la part des choses entre un rhume et la pollution?
C'est toute la difficulté. C'était évoqué tout à l'heure, on prenait pour des grippes, des épisodes où les gens mouraient à Londres alors qu'il y avait ce pic de pollution. C'est une grande difficulté. Récemment, là, je suis allé voir aux urgences pédiatriques de l'hôpital intercommunal de Créteil pour savoir s'ils avaient plus d'afflux de jeunes enfants avec de l'asthme. Ils me disaient non, on a beaucoup d'infections, de VRS, des choses comme ça, des infections virales qui sont habituelles dans cette saison, mais on n'a pas l'impression que ça augmente. C'est extrêmement difficile de percevoir les effets de la pollution. Par contre, sur les urgences de la PHP, il disait que les urgences pédiatriques, ils avaient augmenté à peu près d'un tiers l'afflux aux urgences. Donc c'est variable en fonction des lieux et puis aussi en fonction du type de patients qu'on peut voir aux urgences.
Alors avec des gens qui se demandent comment se comporter face à ces pics de pollution, Christiane qui nous demande, doit-on porter un masque sur la bouche, comme en Chine, lorsqu'on se déplace à vélo aux heures de pointe dans les grandes agglomérations, et quels sont les risques pour les cyclistes urbains?
Alors, d'abord la question du masque. Les masques en tissu ont une efficacité qui est extrêmement marginale, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas d'efficacité. Sur les gaz, ils n'ont pas d'efficacité. Sur les particules...
Elles sont trop fines, ces particules.
Oui, exactement.
Elles passent à travers les mailles
du
masque.
Si vous voulez un masque efficace pour filtrer les particules, ça existe. Vous savez, les masques à cartouches, mais vous n'allez pas pouvoir respirer beaucoup de temps avec ce type de masque.
Ah oui, puis c'est fini. Oui, hein. Alors, si on imagine le vrai masque à gaz pour faire du vélo, là, ça
pas
perd
possible.
De son charme.
Hein. Et quand vous faites du vélo, effectivement, vous augmentez votre ventilation, hein, donc le volume d'air qui arrive dans les poumons augmente, et donc aussi l'importance de la pollution que vous pouvez inhaler. Mais il a été montré que l'exercice physique l'emportait sur les risques liés à la pollution.
Ah,
c'est quand même intéressant.
Alors ça veut dire que même s'il y a un pic de pollution, si je suis en pleine santé et que je ne fais pas d'asthme, vous conseillez quand même d'aller faire le footing?
C'est pas exactement ça que je conseille. Je pense que quand il y a un pic de pollution, il vaut mieux rester tranquille. Mais quand on parle de la pollution de fond, il vaut mieux faire du vélo et l'exercice physique que de se rester chez soi et de rester exposé à la pollution. On a montré qu'on gagnait davantage d'années de vie en faisant un exercice physique et une activité physique régulière.
Le seuil d'alerte a d'ailleurs été défini pour cela. C'est le seuil à partir duquel la population générale peut être sensible aux effets de la pollution.
La pollution est-elle, alors c'est une question de Michel, cette fois sur Internet, la pollution est-elle diminuée si l'on habite à Paris, en altitude, près du point culminant de Paris, Saint-Fargeau? Il donne son adresse carrément, Michel. Alors, est-ce qu'effectivement, l'altitude peut jouer dans l'impact de la pollution?
Alors, l'altitude, elle peut peut-être jouer marginalement. En fait, c'est surtout la distance aux sources. À quelques centaines de mètres des sources, on peut avoir effectivement une amélioration de la qualité de l'air. On sait que sur 150 à 300 mètres, on va avoir une diminution notable des impacts en termes de concentration des axes routiers. Mais à l'heure actuelle, en région parisienne, il y a la moitié de la population qui habite à moins de 150 mètres des axes à plus de 10 000 véhicules par jour.
Et allez-y.
Il y avait une discussion sur les capteurs aussi, de mettre les capteurs à niveau du sol ou au contraire au sommet des maisons. Et en fait, il vaut mieux les mettre au niveau du sol.
Oui, on a des gradients entre le niveau du trottoir à peu près 1,50 m, là où se font les mesures Air Parif, et puis les étages 3, 4, 5, on voit une véritable décroissance qui peut être amplifiée par un effet un peu parasol des arbres qui sont plantés dans les rues. Mais voilà, c'est pas forcément lié à l'altitude, simplement à la distance.
Oui. On va continuer de répondre aux questions des auditeurs particulièrement nombreuses aujourd'hui sur ce thème de la pollution, et puis on verra si les méthodes ou les solutions que l'on envisage sont vraiment à la hauteur. hauteur du problème. On en parle dans un instant dans La Tête au Carré.
Inayan warani sinjayi tisana tabar sukoz taran dakhshinawan tinire sastana qam yakti fut midiwa letasni dilada shakwa inayan warani sinjayi tisana tabar sukoz taran dakhshinawan
Sastanakwam, c'était Tinari Wen dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré sur France Inter.
En compagnie d'Isabelle Cole, chimiste de l'atmosphère, et Bruno Housset, pneumologue, qui sont donc les invités de cette Tête au Carré consacrée à la pollution et à ses conséquences sur notre santé. Isabelle Cole, y a-t-il des zones sur Terre non polluées, c'est-à-dire sur lesquelles, des recoins de la planète sur lesquels nos particules ne sont pas encore allées?
Alors, il y a des particules un peu partout sur Terre, même au milieu de l'océan, vous allez trouver des embruns qui sont des particules issues de l'action du vent sur la mer. Mais bien évidemment, les gradients sont assez forts. Quand on se déplace des zones urbanisées vers les zones rurales, on a déjà des gradients très forts en termes de dioxyde d'azote, en termes de particules. Et puis après, quand on va dans des ce qu'on appelle des recoins continentaux ou même marins, oui, on a beaucoup moins de pollution.
Ouais. Il y a aussi des zones qui sont beaucoup plus polluées que Paris.
Vous avez raison. Alors, par exemple, oui, dites-nous.
Quand on voit ce qui se passe à Pékin, ce qui se passe à New Delhi, par exemple, c'est tout à fait impressionnant.
Oui.
Avec des mélanges de polluants qui sont avec des consommations d'énergie fossile, enfin des feux de bois qui sont utilisés, certains même dans les locaux, et qui sont extrêmement toxiques.
Ce qui est vraiment inquiétant, d'ailleurs, parce que quand en préparant ce dossier, moi je découvre, il y a certaines maladies, je ne soupçonnais pas qu'elles pouvaient être aussi liées à la pollution. On parle du diabète, de troubles cognitifs, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des troubles respiratoires, vraiment même des troubles cardiovasculaires, ça a énormément de conséquences, ces pics de pollution et cette pollution.
Le premier organe qui est en contact, c'est le poumon. Donc effectivement, on a rapidement identifié, ça fait plusieurs années qu'on sait que les pics de pollution sont associés à une augmentation d'hospitalisation pour exacerbation d'asthme, exacerbation de BPCO, vous savez, cette insuffisance respiratoire. Et puis, les études ont montré également des effets cardiovasculaires, c'est-à-dire une augmentation des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux et des thromboses. Alors, faut pas non plus... dire que c'est une augmentation spectaculaire des choses. C'est des augmentations qui sont de l'ordre de 1% des hospitalisations. Donc c'est quand même très peu, mais c'est significatif. Et donc, il faut s'en préoccuper. Et c'est beaucoup plus important dans d'autres villes beaucoup plus polluées. Alors... Et puis, nos études épidémiologiques actuelles, avec des méthodologies très, très, très particulières, avec beaucoup, beaucoup de sujets qui sont inclus, permettent d'identifier d'autres risques, dont ceux dont vous parliez, sur le diabète, par exemple, ou les troubles cognitifs.
Mais de quelle manière la pollution peut générer un diabète? Ça paraît pas lié immédiatement.
Ça paraît difficile, mais les polluants, il n'y a pas que les particules, peuvent aussi se stocker dans des graisses. Et donc, par ce biais, pourraient interférer avec certains aspects métaboliques. On sait que si vous maigrissez de façon rapide, il y a un relargage d'un certain nombre de molécules dans le sang. Donc, il y a cet aspect des choses.
Alors, de plus en plus, évidemment, de personnes se mobilisent, voudraient que des mesures soient prises. D'autres trouvent qu'elles sont déjà trop contraignantes. On le voit avec cette manifestation des autocars dans Paris aujourd'hui. Parmi les personnes qui se mobilisent pour que l'on agisse plus contre la pollution, il y a Delphine Grimbert, porte-parole du collectif Paris sans voiture.
Parce que j'étouffe, l'air de Paris en fait nous empoisonne petit à petit. Je ne suis pas convaincue que la circulation alternée telle qu'on l'a fait améliore vraiment la situation, parce que ça a été tellement mal respecté la dernière fois, qu'on a besoin de mesures beaucoup plus ambitieuses, en fait, et que la prise de conscience soit si forte qu'on fasse passer le petit confort de chaque jour derrière le fait de pouvoir respirer. Les gens ronchonnent, mais petit à petit, les gens ronchonnent aussi de tousser, de voir que les enfants sont malades. C'est certainement pas facile, mais on considère qu'on est dans un état d'urgence sanitaire, et qu'on le payera très cher si on ne réagit pas vite. Demain, on ira manifester avec des bouteilles. On appelle ça cuvée spéciale décembre Air de Paris. Cuvée produite par les voitures, les motos, les scooters et le chauffage à bois. Et franchement, c'est tout dégoûtant.
Delphine Grimbert, porte-parole du collectif Paris sans voiture. Alors, elle trouve que la circulation alternée, ça n'est finalement qu'une demi-mesure, pas à la hauteur des enjeux. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Coll?
Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà expliquer quelle est la nature de l'épisode auquel on a été soumis depuis la fin du mois de novembre. C'est effectivement un épisode qui a une origine essentiellement météorologique, donc on a parlé de la stagnation, mais qui a aussi une origine qui est liée aux activités humaines. Lorsqu'il fait froid, eh bien, les gens mettent en route leur chauffage domestique et on a encore beaucoup de gens qui utilisent du chauffage au bois. Et ce chauffage au bois émet énormément de particules lorsqu'il est utilisé dans des conditions qui ne sont pas optimales. Et donc, effectivement, là, ce que l'on a comme données d'observation sur l'épisode de décembre, ce sont déjà des particules qui sont essentiellement, enfin, très très fortement composés de composés organiques, donc du carbone suie issu des motorisations, diesel essentiellement, et des composés organiques volatiles qui se sont condensés sur les particules qui sont issues de la combustion au bois. C'est un épisode qui est partagé, donc effectivement, jouer sur la circulation ne va résoudre qu'une partie du problème, et il faut aussi, par ailleurs, jouer sur la combustion au bois. Mais il y a des... On parle beaucoup de la circulation alternée, mais il y a eu aussi une interdiction des foyers ouverts d'agrément en région parisienne, en région Rhône-Alpes, etc.
C'est-à-dire pas de feu de cheminée pendant ces périodes.
D'agrément.
De feu d'agrément, pas pour se chauffer. D'ailleurs, Claude vous demande, le chauffage au bois est-il réellement un mode de chauffage à proscrire ?
Alors, le chauffage au bois est neutre en termes de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'il a été promu à un moment. Mais lorsqu'il est utilisé dans de mauvaises conditions, eh bien, c'est une source de particules très importante. En moyenne, sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la moitié des particules émises pendant l'année et jusqu'à 75% des particules émises certains jours d'hiver. Et donc, effectivement, on va avoir une pollution très importante générée par les appareils au bois. Une journée de foyer ouvert qui fonctionne, c'est à peu près 3500 km effectués avec un diesel. Mais il faut voir le bon côté des choses, c'est qu'on peut avoir des appareils au bois qui sont performants et qui polluent beaucoup moins. Par exemple, un foyer ouvert, c'est s'il fonctionne pendant une journée, c'est deux semaines d'un foyer au bois performant.
D'accord. Donc on peut s'équiper en tenant compte de ces pollutions. Bruno Housset, sur la circulation alternée, quel regard vous portez, vous, en tant que pneumologue, sur ces mesures? Elles vous semblent satisfaisantes, intéressantes à prendre?
Pour moi, toute mesure qui diminue la pollution est bonne à prendre. Donc, si on peut faire diminuer la pollution, tant mieux. Je pense qu'effectivement, c'est quand même plutôt à la marge. On parle de 10% peut-être de diminution de la pollution dans cette circulation alternée. Mais qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait la circulation alternée? Est-ce que ça aurait augmenté? Et donc, c'est la question qu'on peut se poser.
Actuellement, l'ADEME considère, avec les retours d'expérience qu'on peut avoir sur les différents épisodes, que c'est le seul moyen efficace immédiatement pour réduire l'exposition de proximité, que ce soit la sienne ou celle des populations sensibles. Elle a aussi pour intérêt d'inciter les gens à regarder l'achat de véhicules moins polluants. Donc, elle a une action sur le court terme et puis elle engage une réflexion sur le long terme.
Bruno Housset, 30 secondes pour conclure, deux conseils à donner aux gens qui nous écoutent et qui se disent qu'ils sont peut-être impactés par ces pics de pollution à répétition. Qu'est-ce qu'ils doivent faire?
S'ils sont très gênés sur un plan respiratoire ou cardiaque, il faut qu'ils voient leur médecin puis qu'ils discutent avec leur médecin. S'ils ont une maladie respiratoire ou cardiaque chronique, il faut vraiment qu'ils prennent leurs médicaments de façon régulière, car on sait très bien que c'est dans ce type de pathologie qu'on le prend de façon un peu épisodique. Là, en période de pollution, il faut vraiment suivre sérieusement son traitement, voire le majorer, mais à ce moment-là, il faut voir son médecin.
Merci Bruno Housset et merci Isabelle Colle pour ces précisions. Et à 14h55, il est grand temps de retrouver Pierre Barthélémy.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Bonjour Pierre Barthélémy.
Bonjour Daniel.
Et aujourd'hui, vous nous parlez d'argent, tiens.
Oui, je vous parle d'argent sale au sens propre.